Europe 1, il est 8h.
Ces clusters que l'on enregistre sont plutôt ou en entreprise, en milieu clos, parfois dans des familles, parfois dans des EHPAD.
89 clusters à travers le pays, des renforts envoyés en Guyane. Le confinement de retour localement en Allemagne et au Portugal peut-il venir reverrouiller la France ? Question posée dès le début de ce journal. Mozart, auditionné par les députés ce mercredi. Mozart, c'est Didier Raoult, selon Didier Raoult. La commission d'enquête va l'interroger sur la partition qu'il a jouée pendant la crise.
Je serai attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
Les municipales et un bastion de droite qui va vivre un second tour pour la première fois depuis la libération. Ça valait bien une alliance des Républicains et des marcheurs pour contrer les Verts.
Nous n'avons pas attendu que M. Hormig soit candidat pour nous préoccuper de ce qu'on doit être une vraie transition écologique.
Bientôt des class action à l'échelle de l'Europe pour ceux qui rêvent de faire plonger des multinationales. Et puis un plongeon, c'est précisément ce que nous ferons en profitant des piscines privées que louent des particuliers. 38 euros la demi-journée tout de même, c'est cher pour se mouiller.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Eric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. 8h30, comédien Molière du meilleur acteur dans la catégorie théâtre privé. Interview exceptionnelle avec Nils Arestrup sur Europe 1. 8h45, Nicolas Canteloup à la revue de presse, bien sûr. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Les chiffres sont pourtant rassurants. Presque 75 000 personnes sorties guéries des hôpitaux depuis début mars. Quelques dizaines de patients de moins chaque jour en réanimation. On est à 682 et un nombre de décès toujours en ralentissement.
Pourtant, tout près de chez nous, à Lisbonne et dans certains cantons d'Allemagne, le confinement fait son retour. Est-ce que cela peut nous arriver ? Pauline Jacquot, certains critères seront déterminants.
Tout l'enjeu, c'est de maîtriser les clusters. Si jamais ces foyers d'infection n'étaient plus sous contrôle, alors il faudrait créer, comme en Allemagne, un cordon sanitaire pour circonscrire le virus. Un reconfinement local pour pouvoir remonter et casser les chaînes de contamination. 239 clusters ont été repérés en France depuis le déconfinement. Un tiers sont en cours d'investigation. Tous les autres sont maîtrisés. Peu probable donc pour le moment que la France doive reconfiner une partie de sa population, selon l'épidémiologiste Antoine Flao, qui relativise les images des foules lors de la fête de la musique.
Les rassemblements à l'extérieur ne sont pas très générateurs de ces clusters que l'on enregistre de ci, de là, qui sont plutôt ou en entreprise, en milieu clos, parfois dans des familles, parfois dans des EHPAD ou des services médicaux, mais plutôt dans des milieux fermés, pas très ventilés, que dehors dans la rue.
La clé, rappelle-t-il, c'est que le nombre d'enquêteurs soit suffisant pour tracer les cas contacts et ne pas se laisser déborder par l'épidémie.
L'épidémie qui touche fortement la Guyane. 2600 cas confirmés par l'Agence régionale de santé, dont la directrice générale le disait sur Europe 1 dans le journal de 6h. C'est assez fatigant pour tout le monde. Des renforts humains et en matériel sont promis. 15 respirateurs ainsi que du dexamétasone.
Ce traitement qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, réduit la mortalité des patients gravement atteints. C'est une couillonnade. Déclaration du professeur Didier Raoult ce matin dans le journal Le Parisien.
Son franc-parler et son ego auront tout le temps de s'exprimer à partir de 17h à l'Assemblée nationale. C'était logique d'auditionner le célèbre infectiologue marseillais, selon les députés que Claudia Bertram a interrogé.
Il aurait été complètement anormal de ne pas auditionner le professeur Raoult, qui a fait partie du paysage de cette crise sanitaire.
Pour la députée LREM Brigitte Bourguignon, il faut que la commission qu'elle préside entende toutes les visions sur la gestion de la crise, même les plus polémiques. Le rôle du professeur marseillais pendant la crise justifie son audition, estime le socialiste et vice-président Boris Vallaud.
Il y a eu des controverses sur l'efficacité ou pas de la chloroquine. Et donc il est important qu'on puisse comprendre les choses. Il ne s'agit pas de décerner de brevets aux uns et aux autres, ou de disqualifier ou qualifier tel ou tel.
Le professeur Raoult sera aussi interrogé sur son retrait du conseil scientifique ou encore sur les tests. Certains affirment que le bilan de l'IHU de Marseille est meilleur que dans le reste du pays. Et le rapporteur LR, Éric Ciotti, veut comprendre pourquoi.
Le manque de tests a été un des défauts majeurs de notre pays. Je serai attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
La commission veut entendre un maximum d'acteurs scientifiques et politiques. Demain, c'est le professeur Karine Lacombe, très critique envers Didier Raoult, qui sera auditionné.
Une arme contre le chômage. Arme comme activité réduite pour le maintien en emploi. On attend les premiers arbitrages sur ce dispositif. collectif. Nouveau rendez-vous à l'Élysée aujourd'hui pour les partenaires sociaux, alors que les prévisions sont de 900 000 chômeurs de plus en 2020.
On ne peut pas en rester là, déclarait sur Europe 1 l'avocat de François Fillon la semaine dernière, alors que l'ancienne procureure Éliane Houlette avait reconnu avoir subi des pressions en 2017. La défense de l'ancien Premier ministre demande la réouverture de son procès.
Le jugement était attendu dans 5 jours, lundi, mais maître Antonin Lévy estime que les procédures en cours justifient qu'on revoie un peu le calendrier.
Vous avez d'abord une commission d'enquête parlementaire qui va se dérouler. Vous avez le Conseil supérieur de la magistrature qui va entendre des magistrats. Nous pensons que ces investigations vont pouvoir jeter un jour nouveau sur ces débats que nous avons eus et viennent confirmer ce que nous dénonçons depuis le début. Le tribunal peut naturellement écarter notre demande et considérer qu'il est suffisamment éclairé en fonction des éléments dont il dispose aujourd'hui. Il peut également l'accueillir en tout ou partie et décider de repousser le délibéré pour pouvoir prendre en compte dans une question de semaine les prochains éléments qui doivent advenir.
L'avocat Antonin Lévy, joint pour Europe 1 par Alain Accaud. Ce matin, la Conférence nationale des procureurs de la République dénonce la suspicion permanente qui entoure, selon elle, l'action des parquets et elle redemande la mise en œuvre d'une réforme profonde de leur statut.
C'est un événement quasi historique qui va se dérouler à Bordeaux ce dimanche. Un second tour d'élection municipale pour une ville fidèlement accrochée à la droite depuis plus de 70 ans.
À l'issue du premier tour, les écologistes étaient en bonne position, mais avec le jeu des alliances, il risque d'être déçu, Stéphane Place.
96 voix d'écart seulement à l'issue du premier tour entre le maire sortant et son adversaire écologiste. Et une quadrangulaire en perspective. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire et avant l'alliance du maire LR, Nicolas Florian, avec le marcheur Thomas Cazenave, un front anti-écolo, selon le candidat vert Pierre Urmic.
On a vu deux candidats qui se sont affrontés, souvent invectivés à l'occasion du premier tour, et qui, à l'occasion de ce front anti-climat qui a été décliné à même temps dans des grandes villes, ça a été Lyon, ça a été Strasbourg et ça a été Bordeaux. On voit bien qu'il y a une organisation de la droite conservatrice pour faire bloc aux écologistes. Ça veut dire qu'on leur fait peur. Moi, je reste sur les résultats du premier tour et non pas sur un sondage.
Sondage récent qui place en tête Nicolas Florian.
Nous n'avons pas attendu que M. Urmic soit candidat pour nous préoccuper de ce qu'on doit être une vraie transition écologique. Deux objectifs majeurs, c'est que d'ici la fin du mandat, nous soyons arrivés à ce que 100 000 habitants de Bordeaux soient en énergie propre. Les réseaux de chaleur, c'est le photovoltaïque, l'hydrolien, l'éolien. Il faut aller plus loin sur la rénovation énergétique des bâtiments. Second objectif, c'est le zéro déchet.
Également qualifié pour ce second tour, le candidat anticapitaliste Philippe Poutou, bien décidé à peser sur la gestion municipale des prochaines années. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Alors, y a-t-il un front anti-écolo ? C'est un résumé caricatural, déclarait il y a quelques minutes Pascal Canfin, invité d'Europe 1. Lui-même, marcheur, ancien d'Europe Écologie Les Verts. Pour lui, c'est ce parti qui a refusé les alliances avec En Marche. Le sectarisme, il est du côté des Verts, dit-il.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant, des consommateurs de toute l'Union européenne qui pourront bientôt s'allier en justice contre une entreprise.
Et puis le président des États-Unis qui ne peut pas tout tweeter, il a de nouveau été censuré.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier, Mathieu Béliard.
C'est une vraie avancée pour les droits des consommateurs, la possibilité de mener des actions groupées en justice à l'échelle européenne.
Isabelle Horry, un compromis vient d'être trouvé à Bruxelles.
Oui, c'est même un accord historique selon les associations de consommateurs. Elles le réclamaient depuis 30 ans. Pour y arriver, il aura fallu le Dieselgate et tous ces automobilistes trompés par Volkswagen sur les normes de CO2. Alors qu'aux États-Unis, la firme allemande a déjà dû verser 20 milliards d'euros, elle n'a encore quasiment rien payé en Europe. En France, il y a bien une loi sur les recours collectifs depuis 6 ans, mais elle est trop contraignante et peu utilisée. Le nouveau texte sera plus efficace, promet Geoffroy Didier, son rapporteur au Parlement européen.
Ce sera plus facile, plus simple, et ce sera surtout aussi international. Si par exemple, vous voulez mener une action contre une entreprise allemande et que vous êtes lésé, vous, Français, mais aussi des consommateurs espagnols, vous pourrez mener une action commune et ainsi avoir beaucoup plus de chances de voir votre préjudice réparé.
Les plaignants devront se regrouper via une association de consommateurs reconnue. La nouvelle loi couvre les biens, l'environnement, la santé, mais aussi les droits des passagers face aux compagnies aériennes. Une fois le texte définitivement adopté, dans les prochaines semaines, les pays de l'Union auront 2 ans pour le transposer dans leur droit national.
Isabelle Horry, ça n'était pas arrivé pendant les 3 premières années de son mandat, un message du président des États-Unis censuré par le réseau social Twitter à nouveau.
Vincent Hervouet, le texte, le message, le tweet est perçu, dénoncé comme un comportement inapproprié.
Oui, François, pour la troisième fois, Twitter corrige Real Donald Trump. Trois fois en trois semaines, le réseau prend de l'assurance. Twitter reproche au président d'avoir défié les activistes qui ont tenté de dresser un campement devant la Maison Blanche, rebaptisé pour l'occasion Maison Noire. S'ils essayent, ils feront face à une force conséquente, a averti Donald Trump. Et cette façon de dire « Viens là si tu l'oses » a choqué les modérateurs. L'élève Trump est donc coiffé du bonnet d'âne et son tweet affublé de la mention qui précise qu'il enfreint les règles du réseau. La première fois, un message contre le vote par correspondance avait fait tiquer Twitter qui avait dénoncé un mensonge en argumentant, document à l'appui. La deuxième fois, c'est l'apologie de la violence qui est invoquée face au Donald Trump promettant des balles aux pillards. Et bien cette fois, c'est une simple mise en garde présidentielle qui provoque la censure.
Et selon Twitter, ce qui est inapproprié, c'est de souhaiter nuire à une personne ou à un groupe.
Oui, ben voyons. George Floyd est mort le 25 mai. Depuis un mois, l'Amérique est emportée par une fureur iconoclaste. Aux grands hommes d'hier, la patrie incandescente jette l'esclavage, le racisme, la violence sociale au visage. Mais Donald Trump est une statue à déboulonner pour les savonaroles du numérique. Le paradoxe, c'est que le candidat Trump est le premier des iconoclastes. C'est en tapant sur l'establishment qu'il espère encore l'emporter. Et le zèle de Twitter est donc sans doute contre-productif.
Le regard international de Vincent Hervouette, tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. On en vient à cette nouvelle mode, louer une piscine privée chez un particulier pour quelques heures seulement. Voilà qui devrait faire un carton ces jours-ci avec la vague de chaleur sur la France.
C'est un petit peu mieux qu'une piscine gonflable d'un mètre carré. Ça fonctionne sur la plateforme Swimmy pour quelques dizaines d'euros. Hélène Terzian.
Bienvenue à la maison. L'eau est à 30 degrés, donc elle est vraiment juste exceptionnelle.
Merci.
On espère que ça vous convient.
Très bien.
Franchement, c'est comme sur les photos.
Elles en ont rêvé pendant le confinement, ont salivé devant leur écran. C'est enfin derrière leurs lunettes de soleil qu'Emma et ses copines voient la piscine de Nicolas.
Je me sens capable de sauter du premier coup.
Mais avant, Emma, des recommandations sanitaires.
Nous, on a nettoyé absolument tout ce qu'il y a, transat et tout, tout est clean. On
respecte les distances.
Voilà, ça vous va ?
Oui, très bien, merci.
Voilà, super.
Ouais ! Je ferme les yeux et je suis en Espagne, à Cuba.
Sauf que c'est bien moins cher, 38 euros par personne la demi-journée et à seulement 20 minutes de chez elle. Filon idéal aussi pour Honorine qui télétravaille sur le transat.
Entre deux plongeons, je peux recevoir un appel d'une de mes collègues.
Voilà. Mais il faudra peut-être pas mettre la visio.
Je vais éviter.
Allô, Honorine. Allô.
Amusé depuis sa véranda, Nicolas se réjouit déjà de pouvoir offrir très vite de nouveaux moments comme celui-ci.
Il y a une très forte demande, entre 10 et 12 demandes, rien que là pour les 3 jours à venir.
Boosté par l'arrivée des très beaux jours, la location de piscine devient aussi une option pour ceux qui ne partiront pas cet été.
Voilà, ça c'est pas délocalisable, on peut pas télé-baigner, se télé-baigner.
Non, on peut télétravailler à la piscine dans notre particulier par contre. À réfléchir, on l'a entendu dans le reportage d'Hélène Terzian, merci François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1, 8h15, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il n'est ni alarmiste ni optimiste, égal à lui-même depuis le début de l'épidémie. Le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière, parle de ce qu'il sait et reconnaît quand il ne sait pas, une qualité qui n'est pas très répandue. A tout de suite pour l'entretien.
8h15.